si on regarde l'évolution de l'espérance de vie à 60 ans, elle est moindre comparée au gain que l'on a eu sur l'espérance de vie à la naissance, elle est beaucoup moins. Et dans 38 pays, elle est même ou nulle ou négative. Donc effectivement, ça reflète une situation qui n'est pas satisfaisante parce que l'être humain peut vivre beaucoup plus longtemps et il peut vivre bien. Alors pourquoi? Pourquoi? Ben évidemment, il y a plusieurs facteurs.
Oui.
Un premier facteur, c'est la priorité qui a été donnée à la santé des petits-enfants. Durant beaucoup d'années, on a travaillé beaucoup sur ce groupe d'âge, mais ça a eu une influence sur la manière dont travaillent nos services de santé et ça a mobilisé aussi beaucoup de ressources sur ce groupe d'âge. Donc s'il y a une mobilisation des ressources et une priorisation sur ce groupe d'âge, évidemment, il y a d'autres groupes d'âge, pas seulement les personnes âgées, qui ne bénéficient pas de cet appui. Alors c'est un premier point. Un deuxième point, c'est les styles de vie que l'on a, qui ne sont pas forcément très sains. On sait maintenant que l'obésité, par exemple, est un facteur de risque qui est d'actualité et de santé publique.
L'obésité et puis l'alcool, le tabac et l'abus des graisses animales.
La mauvaise alimentation que l'on peut avoir, le fait qu'on soit sédentaire aussi, qu'on ne fasse pas d'activité physique. Alors tous ces styles de vie, ça fait qu'on arrive à 60 ans, oui on n'est pas mort, mais on n'a pas forcément un état de santé qui est optimum. On voit apparaître beaucoup de maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, elles ne sont pas détectées ni traitées comme elles devraient l'être. Donc c'est un autre facteur qui fait que si on passe les 60 ans, mais on ne vit pas beaucoup plus que les 60 ans et on ne les vit pas dans des conditions très agréables.
Comment pourrait-on améliorer cette espérance de vie des plus de 60 ans?
Si on reprend ces facteurs négatifs auxquels bon, j'ajouterais peut-être aussi dans beaucoup de pays, et c'est le cas d'Amérique latine où je travaille avec HelpAge, c'est la privatisation aussi des services de santé. C'est un phénomène que l'on voit depuis les années 90 et qui a fait que l'accès aux soins de santé primaires et l'accès aux soins de santé en général ne soit pas une réalité pour beaucoup de personnes, et ce n'est pas seulement les personnes âgées. C'est un fait que je voulais ajouter et qui a beaucoup d'importance parce qu'une des premières solutions pour essayer d'améliorer l'espérance de vie qui est due à un état de santé, mais qui est due aussi à d'autres facteurs sociaux et économiques qui influencent bien sûr la santé. Si je n'ai pas beaucoup de revenus, j'ai plus de difficultés à accéder à des soins de santé. Si je vis dans des conditions de nourriture, d'alimentation défavorables, évidemment, mon état de santé va s'en ressentir. Donc, il y a des actions à porter sur les services de santé. Il y a d'autres facteurs, non?
HelpAge mentionne le développement des services de santé communautaires qui a montré son efficacité.
Les soins de santé communautaires, les soins de santé primaires, j'appelle ça l'arlésienne, on en parle beaucoup. Mais c'est des soins de santé qui n'ont pas été très développés. On est très sophistiqué, on a des beaux hôpitaux, mais on n'a pas ce qu'on appelle les services de soins de proximité, c'est-à-dire des soins où je peux accéder facilement, rapidement, sans un coût de transport.
Oui.
Donc c'est un premier point, si on n'a pas cette santé de proximité.
Un dispensaire où on peut aller pour un rhume, une otite, une grippe, une petite crise de foie.
Oui, mais aussi des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies chroniques. On sait qu'on doit suivre un traitement pour l'hypertension artérielle, par exemple, mais on ne va pas aller à des kilomètres à la grande ville pour chercher son traitement ou pour se faire suivre. Donc les services de proximité, c'est très, très important pour toutes les sortes de maladies, mais c'est très important pour les maladies chroniques et c'est très important pour une stratégie qui a été aussi peu développé finalement qu'est la prévention.
Mais évidemment, il faut payer, ce n'est pas toujours remboursé, etc.
Oui, mais si on parle du coût, ce que les pays plus développés se rendent compte, c'est que finalement, ces soins de proximité, ces soins de santé primaire, coûtent moins cher. Et ça stoppe la spirale un peu infernale des coûts de santé.
Alors finalement, est-ce que les femmes âgées ont des besoins de santé particuliers?
Effectivement, les femmes on a tendance à vivre plus longtemps. Ceci dit, elles ont aussi la tendance à développer, dû par cette longévité, mais aussi par des caractéristiques physiques, de développer certaines maladies, en particulier l'ostéoporose, en particulier l'Alzheimer et des pathologies d'arthrose. Alors effectivement, il faut pouvoir donner à ces femmes âgées la possibilité d'accès aux soins pour ces maladies, d'accès aux soins et de prévention. Mais ceci dit, à l'étape de la vieillesse, il y a beaucoup de facteurs qui sont aussi au détriment de la santé des hommes. Par exemple, les hommes ont développé moins de réseaux sociaux, ils ont une perte de statut qui fait qu'ils dépriment plus facilement qu'une femme. Enfin, il faut savoir reconnaître les nécessités des hommes et des femmes. C'est très important parce que sinon, on va continuer à parler des femmes. Et malheureusement, dans l'étape de vieillesse, les hommes confrontent aussi des nécessités très spécifiques